bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. En souhaitant une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ce matin, nous allons parler de notre héritage. Je vais vous montrer ce qui vous appartient. Des messages comme ça, tout le monde fait Amen, pasteur. Ce sont des messages pour que nous soyons motivés. Mais il doit y avoir de tout dans nos messages, il doit y avoir un équilibre. Il y a des messages de correction, d'exhortation. Il y a des messages de bénédiction pure. Il y a des messages sur le caractère. Il y a toutes sortes de messages, vous voyez. Si on donne que des messages sur la bénédiction, les gens font n'importe quoi après. Si on donne des messages uniquement sur la sanctification, les gens deviennent religieux. Si on donne que des messages sur la vie de l'esprit, les gens prophétisent toute la journée. Donc tout le temps, vous savez, normalement, nous devons être équilibrés au niveau des messages. Sinon après, les chrétiens sont déséquilibrés. Vous savez, c'est comme des gens qui mangeraient un seul type de nourriture. Si tu ne manges qu'un seul type de nourriture, tu peux te rendre très malade. Parce que tu as besoin de manger différents types de nourriture. Avoir un équilibre nutritionnel. Sinon, tu risques de manquer de certaines choses. Alors, on va regarder Romains chapitre 8. Et on va lire donc un esprit. On va lire à partir du verset. Je disais le mot esprit, c'est pour ça. À partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Et on va voir ce texte qui est très très riche. C'est l'apôtre Paul qui va nous parler vraiment de richesse que nous avons en Christ. Et je vais vous expliquer un certain nombre de principes qui sont très importants que vous devez comprendre entre la religion et ce que Jésus a fait pour nous. On va d'abord lire ce texte. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17, or si nous sommes enfants, littéralement fils, je regrette vraiment cette traduction, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui.
Ngo kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo Abba Data impwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana cyangwa turi abahungu b'Imana ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana turabaraganwa na Kristo namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe.
Alors, il est très important de comprendre en fait la différence entre ce que les Israélites vivaient dans l'Ancien Testament et nous, notre position en tant qu'enfants de Dieu dans le Nouveau. Israël avait une religion. Ils avaient un Dieu. Et ce Dieu leur avait donné une loi. avait fait une alliance, la meilleure possible à l'époque. Mais la relation que le peuple d'Israël avait avec Dieu, c'était une relation de serviteur dans le sens d'esclave par rapport à un maître. Vraiment, cette relation d'esclave par rapport à un maître. C'est comme ça que le peuple d'Israël vivait. Et c'est comme ça que toutes les religions vivent. Où Dieu est très loin des gens. Et les gens sont là, ils essayent de pratiquer un certain nombre de choses. En essayant d'avoir la faveur de Dieu ou d'un Dieu inexistant, bien sûr. Et la religion a toujours ce problème. C'est que la religion met une barre inatteignable. Vous ne pouvez jamais atteindre la perfection dans la religion. La religion vous dira toujours, oui, tu fais ça, c'est bien. Mais il te manque encore ça. Et il te manque encore ça. Et alors tu vas le faire et la religion va dire, ah oui, mais il te manque encore ça. Et là, par contre, tu n'as pas réussi. Vous vous rappelez cette histoire du jeune homme riche avec Jésus? Le jeune homme riche vient et dit, oh bon maître, que puis-je faire pour hériter de la vie éternelle? Alors, il y a une liste des commandements. Une liste de tous les commandements de la loi. Jésus dit, c'est bien. Hein? C'est bon, t'es pas mal. Hein? Mais il y a autre chose là dans ton cœur. Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as. Et suis-moi. Il y avait encore quelque chose à faire. Parce que Jésus savait que ce garçon était religieux. Et Jésus voulait montrer ni plus ni moins l'impossibilité de pouvoir réaliser le fait de plaire à Dieu. Il y a quelque chose que Paul nous révèle ici. Au verset au-dessus que nous avons lu, le verset 15 s'il vous plaît. Regardez bien ici ce que Paul dit. Et Paul s'adresse en partie à des Juifs qui étaient à Rome. Ça leur parlait beaucoup plus qu'à nous si nous n'avons pas suffisamment d'explications. Ici, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez être épanoui dans votre relation avec Dieu, ce que je vais vous enseigner ce matin, c'est vraiment une fondation indispensable. Sinon, vous serez toujours dans une relation bizarre avec Dieu. La foi sera toujours quelque chose de difficile pour vous. Et il y en a parmi vous, vous vous battez pour essayer d'avoir la foi. Et ce n'est pas une bonne position de se battre pour avoir la foi. La Bible n'a jamais dit que nous devions combattre pour avoir la foi. La Bible nous dit de combattre le bon combat de la foi, c'est-à-dire avec notre foi. Mais la Bible n'a jamais dit de combattre pour obtenir la foi. Et certains parmi vous, ce matin, vous êtes encore dans cette espèce de combat pour essayer d'avoir la foi. Parce que vous avez compris que sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Alors maintenant, vous êtes dans la position, dans l'état où il faut que j'ai de la foi. C'est une bagarre pour vous. Si vous écoutez ce que je vais vous dire ce matin et que vous le pratiquez, cela va beaucoup vous aider à rentrer dans la dimension de la foi. La foi ne devrait pas être quelque chose de difficile à générer dans notre nature spirituelle à partir du moment où nous avons une compréhension du royaume de Dieu. La foi, ça sera toujours quelque chose de difficile pour toi si tu ne comprends pas que tu es le fils de la maison de ton papa et que tu es héritier. Que tu es héritier. Le fait d'être fils fait de toi un héritier. C'est une conséquence. Mais tu dois comprendre ces deux aspects. Dans le royaume de Dieu, si tu ne le comprends pas, la foi sera toujours une bataille pour toi. La relation que tu vas avoir avec Dieu, ça sera toujours avec Dieu et non pas Abba Père, avec Abba Père. Il y a une grande différence. C'est vrai que le Père est ton Dieu. Mais est-ce que quand tu pries Dieu, est-ce que vraiment tu comprends que tu pries ton Père? Est-ce que vous comprenez? Quand on prie Dieu, quand quelqu'un dit « Je vais prier », comme un bon Burundais, « Je vais prier dimanche », ça, on sent qu'il n'y a pas une relation. Quand tu dis « Je vais voir mon papa », qui est dans le ciel, c'est une dimension complètement différente. Amen.
Amen.
C'est une dimension différente. Si pour toi, Dieu, c'est Dieu, tu es sauvé, Jésus t'a sauvé, c'est une première étape. Maintenant, il te faut l'intelligence du royaume pour comprendre que le fait d'être né de nouveau t'a mis dans une dimension à laquelle tu ne pensais même pas le jour où tu as accepté Jésus. On va expliquer ça parce que c'est très important que vous puissiez saisir votre héritage et fonctionner dans votre héritage. Si vous ne comprenez pas que vous êtes fils et fille de Dieu, que vous ne comprenez pas que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec
Christ,
la foi sera difficile. La vie chrétienne sera lourde. Parce que vous abordez Dieu comme ayant une espèce de relation religieuse. Parce que tu peux dire, « Oh Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Mais Seigneur, si tu ne veux pas me le donner, ce n'est pas grave, je souffrirai longtemps.
Vous
voyez, ça c'est une relation religieuse. En fait, tu manques d'une dimension. C'est la dimension de la famille de Dieu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu dois méditer. Ça prend du temps de savoir que Dieu a le meilleur pour chacun d'entre nous. Parce qu'un bon père a le meilleur pour ses enfants. Je sais, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit. Certains d'entre nous, quand nous pensons à papa, c'est l'image très négative. Parce que le papa, dans le naturel, il n'a pas du tout assuré. Il y en a d'autres. Papa, ça veut vraiment dire quelqu'un d'extraordinaire pour vous. Mais ils sont beaucoup plus rares sur cette terre. Vous l'avez remarqué. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de savoir où on en est avec ça et de découvrir cette relation. Dans le ciel, il y a un papa merveilleux qui est ton papa, qui veut le meilleur pour toi. Maintenant aussi, il faudra que tu sois un bon garçon ou une bonne fille pour savoir bien grandir dans le Seigneur. Mais il y a un papa dans le ciel qui a le meilleur. Et c'est ton papa. Dis-lui simplement, merci papa. Merci papa dans le ciel. Dites-lui, merci papa. Vous avez du mal à lui dire, là. Vous voyez, déjà, il y a un problème quelque part. Merci mon papa.
Merci,
il est
papa.
Là, vous ne le voyez pas, mais il est là. Merci mon papa dans le ciel.
Merci mon papa dans le ciel.
Parce que tu as toujours le meilleur pour moi.
Parce que tu as toujours le meilleur pour moi.
Même quand moi je ne fais pas le meilleur.
Même quand moi je ne fais pas le meilleur.
Ça t'as oublié de le dire. Redis-lui maintenant encore. C'est une dimension, frères et sœurs. De ce que Jésus nous a acquis à la croix. Le fait d'être fils et fille.
Vous allez
me dire, oui, mais moi, pasteur, ça, je ne le ressens pas trop. Je sais que c'est dans la Bible, mais j'ai du mal avec ça. Je vais te montrer ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre, qui est absolument fondamental. Ici, vous voyez, Paul ne prend pas n'importe quel langage, n'importe quel mot. Il n'est pas en train de nous raconter, « Ah oui, Jésus, c'est devenu ton pote, ton copain. » Vous savez, il y a des fois des gens qui utilisent avec le Seigneur des mots un peu trop familiers. Copain, c'est, Jésus, c'est mon pote. Vous voyez, des choses un peu
douteuses.
Ici, Paul utilise un certain nombre de mots qui sont des mots très forts, très puissants. Très puissants.
Vous
voyez, il parle d'adoption. Il parle de père. Tout le monde dit adoption.
Adoption.
Mieux que ça. Dites adoption. Je sais que des fois, il y a une image négative de l'adoption. Sauf certaines personnes. Et j'en connais. Qui ont été adoptés très petits. Et qui ont été toujours considérés de A jusqu'à Z comme l'enfant de la famille. Récemment, j'ai entendu une histoire comme ça. D'un jeune bébé qu'on avait recueilli, qui a grandi dans une famille, qui a été considéré à 100% comme le fils de la famille. Et quand le père adoptif est mort, vous savez ce qu'on a fait? On a donné une part de l'héritage comme les enfants naturels. C'est rare au Burundi. C'est rare, même partout dans le monde. Montre-nous les papiers qui prouvent ça. Mon papa adoptif m'a donné l'héritage avec vous, les fils. Ça montre qu'il y a vraiment eu une adoption.
Amen.
Parce que justement, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Vous voyez, là, il est dit adoption. On peut l'appeler père. Et regardez verset 17. Ah, là, ça va plus loin. Là, ça va plus loin. Si nous sommes fils, nous avons les droits de la maison. Nous avons les droits de la maison. Eh oui, Paul nous dit clairement.
Arabivuga neza Paulo.
Nous sommes aussi héritiers.
Ngo turabaragwa b'Imana.
Héritiers.
Turabaragwa.
Ça, ça prouve vraiment que Dieu nous a parfaitement adoptés.
Ibi byerekana neza ko Imana by'ukuri yatwakiriye.
Dieu aurait pu dire, bon, c'est vrai, vous êtes mes enfants, mais pff, hein, rappelez-vous, vous êtes des vieux pécheurs.
Yari gushobora kuvuga iti ego nivyo murabana narabakiye mugabo mwibuke ko mwari binyavyaha mwebwe.
Vous savez, il y a des gens comme ça qui reprochent. Ils adoptent en disant, bon, je t'ai adopté, mais tu m'as coûté cher.
Hein.
Et vous êtes là, vous êtes l'enfant adopté, ce n'est pas de votre faute. Vous avez grandi dans la famille qui vous a un dixième adopté. Et vous sentez qu'il y a toujours un rejet par rapport à vous. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous rejette jamais. Maintenant, nous devons avoir un bon comportement. Ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute bonne partie de la part de notre papa. Et là, on voit Dieu a fait de nous qui des héritiers. Nous sommes les héritiers du papa. Mais le fils Jésus a dit aussi, vous êtes héritiers avec moi. Vous êtes héritiers avec moi. Vous avez vu ici, il est dit co-héritier. Ça veut dire héritier avec. Ça veut dire que Jésus n'hésite pas et n'a pas hésité à partager son héritage. Il aurait pu dire, non père, moi je vais mourir pour eux, mais je garde tout l'héritage. Jésus voulait partager. Le père voulait partager. Jésus voulait partager. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu ne pourras jamais vivre une relation profonde avec Dieu. Vaincre les obstacles de la vie. Si tu ne comprends pas cette dimension que tu es fils et héritier. Parce que quand tu vas te mettre devant Dieu, tu vas peut-être utiliser certaines expressions en lui disant Père au nom de Jésus, et si tu, quand tu pries comme ça, tu pries d'une façon totalement scripturaire. Et ça c'est très bien parce que Jésus nous a dit de prier le Père quand il s'agit de demander des choses. Mais quelque part, si tu n'es pas pleinement convaincu que Dieu est ton papa, tu vas avoir une difficulté. C'est que quelque part, si tes circonstances ne changent pas, tu risques de commencer à douter ce quoi tu as prié. Parce que tu manques de cette dimension de compréhension. Nous sommes héritiers. Nous sommes des héritiers par la foi. Dieu nous a donné cet héritage par la foi. Par la foi. On va lire Romains 4, verset 13 à 16. Comment nous sommes devenus héritiers ? Parce qu'on a trafiqué des papiers ? Parce que certains, on a eu une faveur ? Non. C'est ta foi. C'est grâce à ta foi. C'est un état de fait que ta foi a produit. Et je vais vous montrer que ça a été fait sur une base légale. Quelque chose qui va beaucoup t'aider, c'est de comprendre la légalité de ton adoption dans le monde spirituel.
Vous savez,
parfois, il y a des contestations dans les adoptions dans le naturel.
Il peut y avoir des
contestations. Et dans le monde spirituel, il ne peut pas y avoir de contestation. Parce que nous allons voir comment Dieu a fait les choses. Tu dois comprendre que ce que tu es aujourd'hui, c'est parfaitement légal devant Dieu. Et c'est incontestable devant les puissances des ténèbres. Satan ne peut pas contester ta position. La seule chose qu'il peut faire, c'est te mentir par rapport à ça, ou essayer de tout faire pour que tu ne rentres pas dans cette dimension. Cette dimension de compréhension de qui tu es. Alors, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Verset 15. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers, regardez bien cette phrase, les héritiers le sont par la foi.
Pour que ce soit par grâce.
Tu es devenu héritier comment ?
Par
quel moyen ?
Par
la foi.
Par
la foi.
Parce
que tu as cru,
tu
t'es mis dans les conditions divines. La foi, ta foi personnelle pour le salut, a fait quelque chose d'extraordinaire à propos du royaume des ténèbres et à propos du royaume de Dieu. Rappelez-vous, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Un royaume qui a été perdu à cause du péché.
Adam et Ève
ont tout mis sous la malédiction de la chute. Jésus est venu pour nous donner une entrée dans le royaume. Légal. Comprenez bien. Rien n'a été fait par bricolage. Tout ce que Dieu a fait en
Christ,
au travers de son sacrifice, ce que tu es aujourd'hui, c'est légal. Légal. Et croyez-moi, les lois spirituelles, ce ne sont pas comme les lois naturelles. Dans les lois naturelles, dans beaucoup de pays, il y a des violations. Il y a des corruptions, vont passer à côté de la loi. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de corruption possible. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie éternelle en Christ. Par la grâce, par la foi. Et Dieu a fait de nous des enfants légitimes. Non pas illégitimes. Par notre foi. Les héritiers le sont par la foi. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec
Christ
par ta foi. C'est ta foi qui t'a fait sortir des ténèbres. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. C'est très important que vous compreniez que vous êtes devenus fils et filles du royaume d'une façon totalement légale. Quand je dis légal, ça veut dire que rien ne peut changer ça. C'est un état de fait que votre foi a produit par des lois du royaume de Dieu. Et ces choses-là ne peuvent pas être changées. C'est pour ça, vous savez, quand il y a des gens qui prêchent, que quand un chrétien a péché, il doit se repentir et il doit à nouveau donner sa vie à Jésus. C'est un mensonge. Parce que la Bible parle de naître de nouveau une seule fois. Le fait qu'un chrétien pêche ne fait pas de lui à nouveau un pécheur. Heureusement d'ailleurs. Sinon, ça serait une catastrophe. Ça ne nous destitue pas d'une position de fils. Ça, c'est quelque chose que chacun doit comprendre ici. Ici, il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints. Tout le monde dit l'héritage des saints dans la lumière.
L'héritage des saints dans la lumière.
Dites, j'ai part
à l'héritage
des saints dans la lumière.
Des saints dans la lumière.
Vous savez, c'est important de confesser ces choses. Si vous voulez être fort dans le Seigneur, il faut prendre la parole et simplement la parler comme ça. C'est quand
tu
es dans des situations qui ne sont pas faciles et que tu as confessé ces choses que tu verras la gloire de Dieu. Verset 13, il nous dit comment nous avons eu part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça, c'est un puissant verset. Ça, c'est un des versets que j'utilise très souvent pour montrer la légalité, la légitimité. Du fait que nous soyons des enfants légitimes de Dieu. Dis, je suis un enfant légitime de Dieu.
Je suis un enfant légitime de Dieu.
On n'est pas illégitime. C'est pour ça que quand on parle de salut, c'est clair. Soit on est sauvé, soit on n'est pas sauvé. Soit on est fils, soit on est fils du diable, ou on est fils de
Dieu.
C'est pour ça que je ne supporte pas ces témoignages là où on va dire « Oui, je prie dans telle église, j'ai été baptisé, je lis ma Bible, mais ça n'a rien à voir. » Le christianisme n'est pas l'adhésion. Le christianisme est un changement de royaume. Fils du diable des ténèbres. Sans espérance dans ce monde. Voué à la damnation éternelle. Au passage à fils de Dieu. Fille de Dieu. Dans la famille de Dieu. Adopté parfaitement. Enfant légitime. De la maison. Et héritier pour l'éternité. C'est ça que Dieu a fait de nous. Et je ne supporte pas le placebo de la religion. C'est insupportable. Et le pire, c'est que de plus en plus, nous voyons ces choses-là. Nous voyons plein de gens remplir des églises à droite, à gauche. Et quand on demande des témoignages, on se demande où sont les témoignages de vrai salut, de vraie conversion. Amen. Les adhérents vont en enfer. Soyons bien clairs. Les adhérents à l'évangile vont en enfer. Ils peuvent essayer, vous savez, ils sont comme les morceaux de bois rongés par les termites. Jésus les a appelés des sépulcres blanchis, des tombeaux blanchis. À l'extérieur, ils vous donnent tous les trucs chrétiens. Mais à l'intérieur, c'est rongé par les termites. J'ai comme ça un montant de porte qui est très vieux chez moi. Et qui est mangé par les termites. Et alors, comme il y avait certainement eu 5 ou 10 couches de peinture dessus, on avait l'impression que le bois était encore bon. Et puis un jour, j'ai cogné juste un côté. Et j'ai vu, pouf, tout
est
un truc tombé. J'ai dit, waouh, c'était vide là-dedans. C'est ça quelqu'un qui est religieux. Il a de la peinture, il a mis des couches de peinture. Mais à l'intérieur, c'est pourri. C'est rongé par les termites. C'est pas un fils. C'est pas un héritier. Il n'a pas vécu Colossiens
1:13.
Ça, c'est un verset puissant. Il nous a délivrés, littéralement délivrés du danger. Alors de la puissance des ténèbres, la puissance, j'aime pas, c'est de l'autorité légale que les ténèbres avaient sur nous. Un fils et une fille de Dieu légitimes peut dire j'ai été délivré, pas je serai délivré. Mais il peut dire, j'ai été délivré de l'autorité que les ténèbres avaient sur ma vie. Et regardez bien, nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Ta nouvelle naissance, ça a produit un transfert de royaume. Un transfert de propriété. Et celui qui a payé le transfert, il s'appelle Jésus. Et il a fait de toi un fils et une fille légitime. Tu es passé de la propriété du diable sans héritage, sans espérance dans ce monde, à la propriété de Dieu. Et comment est-ce que Dieu a prouvé cela dans ta vie? A prouvé que le diable était foutu dans ta vie. Et que maintenant tu devenais la propriété de Dieu. Et bien c'est très simple, on va refaire un petit saut dans Romains chapitre 8, verset 16. Dans Romains 8, 16, nous avons la réponse. Verset 16, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et juste au verset 15, il était dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. Dieu a approuvé le transfert de propriété de ta vie. En faisant de toi un fils et une fille légitimes. Maintenant, il y a trois choses qu'il faut savoir à propos de notre héritage. La Bible nous dit clairement que nous sommes héritiers, pas que nous allons être héritiers. Nous sommes héritiers. Il y a trois choses importantes que vous devez savoir sur votre héritage. La première chose, c'est la connaissance. La connaissance. C'est ce que nous avons étudié dans cette première partie. De savoir que nous sommes fils et filles légitimes de Dieu. Et que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers depuis quand ? Le jour de notre nouvelle naissance. Ça, c'est la chose que vous devez savoir. Nous l'avons confessé. Et je pense que vous l'avez compris, c'est la connaissance. La deuxième chose, c'est l'exploration. C'est bien si on vous annonce une bonne nouvelle un jour en vous disant vous êtes héritier d'un tel. Il y a des fois des bonnes surprises. J'ai entendu ça récemment chez quelqu'un. C'était un très vieux couple belge qui a vécu très longtemps ici.
Et
ils sont décédés et ils n'ont jamais eu d'enfants.
Alors,
il y a eu quand même des héritiers indirects.
Et
ils avaient un filleul. Dans la religion traditionnelle.
Et
alors ce filleul, on l'a fait
hériter.
Ce jour-là, il devait être content quand il a reçu la lettre.
Mais
le pauvre, il n'a pas été très content quand il a vu ce qu'il avait eu. C'était pas fantastique, malheureusement. Quand il était là chez le notaire, il attendait.
Et
franchement, il a hérité de trucs, j'ose même pas vous le dire. Il était très déçu. Mais heureusement, nous n'avons pas un Dieu qui nous déçoit. Ce que Dieu a pour nous est toujours excellent. Mais il est important. Si on hérite, de savoir de quoi on hérite.
Donc
il va falloir explorer. C'est ce que Dieu avait fait avec les Israélites.
Et
il leur a dit, je vous donne le pays promis. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez explorer le pays. Vous devez explorer le pays. Et ça fait partie de ta responsabilité. Tu sais que tu es héritier. Maintenant, il va falloir explorer qu'est-ce qu'il t'appartient. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui est à toi en Christ? De quoi as-tu droit? Tu sais que tu as un droit. Nous l'avons vu. C'est l'héritage. Maintenant, tu dois explorer. Et pour explorer, bien, il va falloir que tu fasses une prière que Paul conseillait fortement aux Éphésiens, chapitre 1. Versets 17 et 18. Il faut que tu apprennes à explorer qu'est-ce qui t'appartient en Christ. Qu'est-ce qui est à toi? Tu dois le savoir. Donc ça va être le temps que tu vas passer à méditer ton alliance. Tu dois explorer. Afin que le Seigneur, que le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux
saints. Tu
peux être né dans le royaume de Dieu, né de nouveau, et être comme ce frère dans cette histoire du fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, ce frère aîné qui était supposé apprendre à jouir des biens du père. Le frère cadet était parti avec la moitié de l'héritage. A fait n'importe quoi avec. Il revient. Et le frère aîné entend de la musique parce que son père a fait une fête pour le retour du frère
cadet.
Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur lui dit, il n'est même pas capable d'aller voir son père en premier.
Alors
on va peut-être relire cette histoire, je sens que ça serait bien, merci. Le serviteur, juste un peu plus haut, verset 26, s'il te plaît, merci. Je vois que Bob est très arrivé. Il appela un des serviteurs. Voilà, le fils aîné appelle un des serviteurs. Est-ce qu'il pensait qu'il était vraiment fils de la famille, ce monsieur? Tu es là, tu es chez toi, tu es le fils aîné. Tu sers ton père. Tu entends qu'il se passe quelque chose chez toi. Et tu vas dans l'arrière-cuisine chercher le travailleur en disant, travailleur, qu'est-ce qui se passe chez moi? Ça ferait un peu bizarre, non? Tu es le fils aîné, tu vas dire à ton papa, papa, j'entends de la musique, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fête aujourd'hui? Non, lui, il va voir le serviteur. On voit la mentalité de ce garçon. Il appelle un des serviteurs et lui demande ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras, verset 28. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Imaginez-vous la relation. Voyez la relation qu'il avait avec son père. On sent que il n'y a pas une bonne relation avec son père. Pourtant, son père était bon, image de Dieu le Père, bien sûr.
Mais
on sent quelque part, il avait une relation bizarre. Pourtant, c'était le fils aîné. Il se mit en colère, ne voulut pas entrer. Donc son père, ok, on peut... Il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé des ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. En fait, il ne savait pas jouir des biens de la maison. Apparemment, il ne savait même pas qu'il pouvait prendre un chevreau, amener ses amis et faire une fête. Il avait l'image du père qui allait le restreindre, toujours essayer de limiter. Et vous voyez que le père est choqué quelque part. Le père est étonné de voir sa réaction. Pourquoi tu te mets comme ça dans cet état-là? Mais je sais bien ce que tu fais pour la maison. Je t'aime autant que ton frère cadet. Mais sauf que toi, tu ne sais pas profiter des choses. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas explorer. Apparemment, il ne savait pas qu'il pouvait prendre un chevreau, utiliser ce qu'il voulait et en faire ce qu'il avait envie. Il était bloqué. Et certains d'entre vous, vous êtes bloqués. Et il faut vous débloquer. Parce que sinon, vous ne pourrez jamais vivre une vie épanouie en Christ. La troisième chose, c'est posséder ce que nous avons. Donc la possession, l'exploration, c'est bien de savoir. Ça, c'est la connaissance de la parole, de ce qu'il y a, ce qui t'appartient. Maintenant, tu dois t'approprier les choses. Tu dois passer de cet aspect, je sais que ça m'appartient. Je sais que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mais rends cet héritage réel dans ta vie. Je sais que le Saint-Esprit a été donné. Mais pasteur, je n'arrive pas à parler en langue, j'essaye. On
ne
te demande pas d'essayer, on te demande de posséder ton héritage. Les gens, quand ils savent qu'ils ont un héritage, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils vont régulièrement savoir quand est-ce que ça va être transféré sur mon compte en banque.
On
est pressé d'en prendre possession. Quand est-ce que le partage sera terminé? Tout le monde dans le naturel veut faire ça. Parce qu'on sait que ce sont des biens qui sont là, mais qu'on ne peut pas encore en profiter.
Kuko bazi yuko biraho mugaba akeneye byarazo bishika kakabijya.
Et c'est une frustration quelque part quand ça dure trop longtemps.
Et
une frustration qui est compréhensible. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le monde spirituel, les chrétiens n'envahissent pas le royaume de Dieu pour prendre possession de ce qui leur appartient. Et pourtant, ça devrait être notre réflexe. La parole nous dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, Christ, pardon, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa yaduhezagiriye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mwijuru muri Kristo.
Prends possession de ton héritage.
Chakira iragijyawe.
Mais pour ça, découvre d'abord ce qui t'appartient en Christ.
Ariko kugira ngo bibemwe banze umenye ico wahawe muri Kristo icarico.
Parce qu'il y a des gens qui sortent de leur héritage.
Kubera ko hari abantu bava mwiragijya.
Des fois qui font des trucs spirituels qui ont rien à voir avec ce que Jésus a acquis à la croix.
Ugasanga hari ibintu byitwa iby'impwemu bakora bitahuye na gato n'ibyo Yesu yabahaye by'ukuri.
Et ça c'est très mauvais.
Ivyo navyo ni bibi cyane.
Il faut que tu saches qu'est-ce qui t'appartient.
Urakwiye kumenya ngo mbega nahawe iki fisiki.
Et que tu prennes possession.
Ubicakire.
Et que tu vives à la lumière de la dimension de ce que Jésus a fait. Si tu veux glorifier Christ, c'est en montrant la gloire de son héritage. La gloire de son héritage. C'est là où il sera glorifié dans ta vie. Arrête de pousser, de tirer, de faire du chantage avec Dieu, ça ne marche pas. Arrête d'essayer de croire ou de te bagarrer pour la foi. Ça ne sert à rien. Comprendre que toutes ces batailles-là seront terminées dans ta tête. Le jour où d'abord tu comprendras vraiment que tu es héritier. Le jour où tu comprendras ce qu'il y a dans ton héritage. Et le jour où tu prendras la décision. Je vais posséder mon pays promis. Sois un Josué. Possède. Et aide aussi les autres. Aide les autres à posséder leur héritage. On va se lever et on va prier un moment. Vous savez, ce sont des vérités importantes. Jamais tu seras épanoui si tu ne comprends pas les vérités que nous avons partagées ce matin. Et tu en as besoin. Tu as besoin de comprendre ces vérités. Et nous allons prier quelques instants pour que tu commences à être défié par rapport à ces vérités. Parce que vous savez, Jésus n'a pas souffert juste pour nous sauver, pour dire on va au ciel. Mais Jésus a souffert pour que nous puissions être libérés de tout ce qui peut être ténèbres et Satan. Et il a souffert pour nous donner cet héritage. Levez vos mains vers le Seigneur, on va prier ensemble. Père, je prie pour ce peuple. Je prie pour ton peuple ce matin, Seigneur. Je prie pour que tu aides chacun ici à découvrir sa position de fils et de fille du roi des rois. Je prie, Seigneur, pour que tu illumines les yeux des cœurs, pour que chacun puisse découvrir ce qu'il y a dans son héritage en Christ. Je prie, mon Père, pour que tu leur fasses découvrir vraiment cette relation avec toi de papa. Parce que nous pouvons te dire papa, parce que tu es notre papa, notre Père merveilleux qui nous veut du bien. C'est pourquoi je prie pour ton peuple, Seigneur, pour que vraiment ces vérités puissent réellement être infusées dans le cœur de chacun. Que tu as le meilleur pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as le meilleur. Jésus, merci. Merci Jésus parce que tu as souffert.
Pour
que nous puissions être des enfants légitimes. Merci d'avoir accepté de partager l'héritage. Et nous voulons le découvrir. Nous voulons le posséder. Seigneur, je te remercie. Merci d'éclairer chacun ici. Aider chacun à grandir. Dans le meilleur, Seigneur. Pour que chacun sache dans les moments difficiles que tu as le meilleur. Le meilleur pour chacun. Le meilleur. Répète cette prière après moi. Père,
Père,
dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus,
je crois,
je confesse
que tu as le meilleur.
Que tu as le meilleur.
Le meilleur pour ma vie.
Le meilleur pour ma vie.
Le meilleur pour ma destinée.
Le meilleur pour ma destinée.
Je le crois.
Je le crois.
Je veux le découvrir.
Je veux le découvrir.
Et je veux le vivre.
Et je veux le vivre.
Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus.
Je te remercie.
Je te remercie.
Alléluia. Soyez bénis. Et passez une super semaine dans le Seigneur.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.